A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Le fait d'être né d'une relation extra-conjugale a créé plein de choses chez toi dans ta relation à l'argent. Peut-être que je me trompe, hein, tu vois, mais le fait que tu dises je me sens en dette, c'est énorme, quoi.
En fait, petit à petit, je commence à me détacher de... Je suis en dette de devis. Tu vois, j'ai pris une place que j'aurais pas s'ils étaient en vie, tu vois.
Tu te rends compte de ce que t'es en train de dire?
Ouais.
Tu te rends compte à quel point c'est... Ça n'a rien à voir avec toi. Ça n'est pas ton histoire.
Bah, j'ai l'impression que si, tu vois, je sais que ma mère, elle veut pas trop que je la raconte, cette histoire, mais tu vois, il y a une partie de moi où cette histoire m'appartient, et en même temps, c'est son histoire, j'arrive pas trop à savoir. Mais tu vois, je me dis, c'est mon histoire, c'est mon arrivée dans la vie, quoi. Enfin, tu vois.
Oui, mais ça t'appartient pas.
Exécuté par qui ?
Fabrice Florent.
Bonsoir, bonjour, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque mardi et chaque vendredi à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils? Comment ils le gagnent? Comment ils le dépensent? Comment ils l'appréhendent tout simplement? Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités, de leur intime, parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens, plutôt dans des podcasts de conversation, sur divers sujets. Des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com, fabflorent.com. Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5€ par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode. Merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préféré, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcasts ou Spotify. Et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute.
T'inquiète que je suis nature peinture, donc...
Ah, j'ai compris que t'étais nature peinture. Déjà, rien que cette expression nature peinture, quel âge as-tu ?
33. Mais en fait, je me vieillis d'un an à
chaque fois. 33, ressenti 80, non ? Nature peinture.
Mais non.
Si, c'est une expression de daron un peu, non ? Voire de grand-mère.
T'enregistres pas, là ?
Si.
Ah, chier. J'utilise beaucoup d'expressions daron et je peux être très vulgaire aussi.
Ok. Bah,
genre,
très bien.
On va pas se branler la nouille avec ce sujet.
C'est très bien.
Ok.
Tout est validé. Tu peux te branler la nouille ou pas, comme tu veux, dans cet épisode. D'ailleurs, tu m'as dit dans ton... C'est ce qui fait que je t'ai invité. Non, c'est faux. Tu m'as dit dans ton mail que tu avais une voix de téléphone rose et que ça va plaire à mes auditrices et à mes auditeurs.
Donc, je peux essayer.
Bienvenue avec Justine.
Bonjour, bienvenue à ce podcast pour parler d'argent. Non, mais tu vois, il y a Radio FIP et on a une ville... près de là où j'habite, qui s'appelle Sucé-sur-Erdre. Du coup, tu peux faire bienvenue sur FIP pour une nuit à Sucé-sur-Erdre. Nous allons parler d'argent. Voilà.
Bienvenue.
Merci.
Tu m'as d'abord envoyé un message vocal que j'ai retrouvé en 2022.
J'ai oublié.
En septembre 2022, donc un peu moins d'un an après la création du podcast, où tu me disais, bon... bah voilà ma relation à l'argent, nani nana, et puis en fait je vais t'envoyer un message, un mail, un de ces jours, tu me dis, peut-être dans 2 jours, peut-être dans 3 semaines. Bah en vrai tu l'as envoyé plus d'un an plus tard.
J'étais pas prête.
Comme, ben voilà, tu m'as dit, moi j'ai toujours peur de t'écrire pour Histoire d'argent que t'as écrit en gros et en comics en MS. Bravo. Et t'as mis Est-ce que t'as peur?
Oui.
T'as peur d'argent?
Non, j'ai peur d'échanger avec toi parce que je sais pas ce qui va ressortir, parce que je peux en parler hyper facilement avec tout le monde,
okay.
Mais je sais pas quel est ton prisme, je sais pas où tu vas mener l'entretien. C'est toi qui le mène, hein, c'est pas moi.
Oui.
Okay.
Enfin, après, tu réponds là où tu veux répondre. Hein.
Okay.
Je ne vais pas t'obliger à répondre. Mettre un couteau sous la gorge pour que tu répondes.
Parle.
J'en profite pour dire aux gens qui m'envoient des vocaux pour poser une candidature, ne m'envoyez pas de vocaux pour poser une candidature. Il y a un mail qui est sur argent@fabflorent.com. Si vous m'envoyez un vocal, je ne vais tout simplement pas l'écouter parce que je n'ai pas le temps. Sinon, si tous les gens m'envoient des vocaux, c'est très sympa d'entendre votre voix, mais j'ai trop de mails en attente. Donc envoyez-moi un mail écrit, s'il vous plaît. C'est vachement plus simple pour moi de le lire. Pardon, je fais ma petite...
auto-promo.
Pas auto-promo, petite note de service, tu vois. Et puis c'est mon podcast, après tout, je fais ce que je veux, hein, tu vois.
Mm-hmm.
Est-ce qu'on peut parler un peu de ton rapport à ce podcast? Parce que si j'ai bien compris, ce que tu m'as dit, c'est que tu l'as écouté beaucoup et que là, t'as arrêté depuis un an environ de l'écouter. Mm. Ça t'a gonflé? Sens-toi libre, hein, bien sûr, n'hésite pas.
Bah en fait, je l'écoutais à fond pendant un an parce que je pense que c'était devenu un sujet un peu obsessionnel et quand j'ai des phases, j'y vais à fond.
Ouais.
C'était même le podcast que j'ai le plus écouté en 2022.
Toutes mes félicitations.
Merci.
Est-ce que tu écoutais plusieurs fois les épisodes?
Quand même pas. Non. Non, je sais plus, peut-être, parce que ça remonte. Mais en fait, au bout d'un moment, je pense que ça m'a rendu un peu dingo et je pense que je commençais à avoir beaucoup de colère par rapport à ce sujet-là. J'avais pas envie de me cramer là-dedans et j'ai arrêté.
On peut parler de cette colère?
Oui. Est-ce qu'on va l'appeler la colère féministe?
Appelle-la comme tu veux.
La furie.
L'hystérie, tu veux dire? Ah bah bravo, hein.
Attention à ce que tu dis.
Oui, mais... Oh. Pas d'humour. Premier dog total, quoi.
Ah si, si, je suis très humour et j'adore faire des blagues sexistes, mais parce que moi, j'ai le droit.
Et pas moi?
Non.
Ok. Mais pourtant, c'est mon podcast.
Oui, bah oui, bah oui. mais je peux être violente. Non, je rigole.
Oh putain.
Non, non, je rigole. Je fais beaucoup de blagues bizarres. C'est pas. Oula, c'est un peu saturé à un moment.
Oh, t'occupes pas de la production de ce podcast. Raconte-moi ton histoire.
Ok.
Merci.
Alors, oui, il faut savoir une dernière chose, c'est que si je peux prendre la première voie de détournement, je fais beaucoup de blagues pour détourner et louvoyer.
T'inquiète pas.
Je fais beaucoup ça.
Je vais pas te.
Lâcher.
Enfin. Sans jamais t'obliger à quoi que ce soit, encore une fois, je ne veux pas te foutre le couteau sous la gorge, mais si tu fais des blagues, je te dirais, là, tu te rends compte que tu es en train de faire une blague.
Ouais, ou que tu évites la question. Pourquoi il y a de la colère? Déjà parce que je suis sortie d'une relation assez complexe en septembre où l'argent était un sujet assez compliqué avec mon ex-conjoint. Une grosse source de stress. Je pense qu'il y avait ce côté un peu obsessionnel où je commençais aussi à ruminer et aussi avec ma casquette, on va dire, de féministe, j'étais...
Attends, excuse-moi, mais ruminer sur l'argent, tu veux dire?
Ok. En fait, j'étais en grande difficulté financière début 2023. Mon ex-conjoint a dû me prêter de l'argent. Donc à un moment, j'avais besoin de penser à autre chose, sachant que c'était la première chose à laquelle je pensais quand je me levais et la dernière quand je me couchais. Parce que j'étais hyper précaire. Il y a ça. Et aussi, en tant que féministe, j'ai commencé à voir toutes les notions de privilège et de potentielle situation de domination. Je suis entourée de ça dans ma famille, dans ma propre histoire. Donc, c'était un peu chaud, quoi. De violence économique, de... Voilà. Et puis après, j'ai basculé sur autre chose. Je suis partie en manif contre la réforme des retraites. J'ai bouffé de la lacrymo. C'était merveilleux. Ouais, je pense que...
T'as déplacé ta colère de sujet, c'est ça?
Ouais. Ouais.
Ok.
Voilà.
Tu es toujours en colère là par rapport à l'argent ou dans quel état d'esprit tu viens là?
C'est pas clair, c'est très ambivalent. Mmh. Je suis pas quelqu'un qui est dans la demi-mesure, je suis les deux polarités, genre à fond, genre c'est un sujet hyper important, je vais en parler, je vais être hyper cash. Et de l'autre côté, j'en peux plus, c'est un sujet qui m'énerve, qui me met en colère, qui peut être obsessionnel, qui chez moi est maladif, parce que je pourrais en reparler, mais j'ai un trouble psy. Et une des manières, enfin, il y a plein de choses qui peuvent se manifester dans ce trouble psy, mais moi, ça se manifeste par rapport à l'argent. je suis surendettée parce que j'ai payé mes études 35 000 balles et je rembourse encore mon prêt.
À 33 ans alors.
À 33 ans, mais normalement j'aurais dû finir de payer en 2022.
Ok.
J'ai refait un prêt et ça s'est fini en Banque de France.
On va en parler.
Ouais.
Et donc tu me disais que tu peux être obsessionnel, que t'as... En fait, soit t'es en mode obsessionnel, en mode de, ok, c'est le sujet machin, et de l'autre côté, il y a quoi ?
Une extrême anxiété permanente.
Ok.
Et c'est pas une anxiété, parce que je trouve ça hyper intéressant quand j'entends parler de... Tu sais, tu parles des millionnaires qui ont peur de manquer, etc. Mmh. Moi, j'ai peur d'avoir de l'argent. Je suis hyper à l'aise quand j'ai 0€ sur mon compte. Non, mais littéralement. Mmh. Genre, je suis pas dans le négatif, mais j'ai pas d'argent à dépenser. Mmh. C'est la situation la plus merveilleuse et la plus merdique possible pour moi, parce que c'est précaire. Je suis très souvent à découvert, alors que j'ai plus le droit. Parce que quand t'as un dossier Banque de France, t'as pas le droit à un découvert normalement, mais c'est un ancien compte en banque. C'est aussi pour ça que je veux pas dire mon prénom, parce que voilà. Et puis, y a plein de fois où juste je me suis retrouvée dans la merde, tu vois, même à la fin de 2023, après ma séparation financièrement, j'ai mangé grâce à une de mes colocs. J'ai demandé un panier alimentaire, des bons alimentaires en décembre, donc c'est tout récent, à la ville où je réside. Et à un moment, vraiment, c'est le truc qui m'a marqué, c'est... Bon, je fais mes courses à la Biocoop, j'avoue, puisque je veux bien manger. Mais aussi une histoire derrière ça, mais je devais choisir entre un paquet de pâtes et une tablette de chocolat. J'en étais là, tu vois. Et j'étais vraiment au jour le jour, à la facture, à la semaine, et c'était ça, sinon je pouvais pas me payer à bouffer, et c'était vraiment dur. Et en fait, quand tu te réveilles tous les jours en te disant « Putain, je sais pas comment je vais y arriver », c'est... T'as pas de place pour autre chose. Mmh.
Voilà. Et d'un autre côté, tu dis que t'es jamais autant à l'aise que quand t'as 0€. Donc, ouais. Y a un peu, que se passe-t-il dans ta tête ? Parce que t'as l'air, t'en es très consciente, pour le coup.
Ouais. Bah, je veux me débarrasser du sujet. Quand j'ai pas d'argent, j'ai rien à dépenser, donc c'est pas un problème. Tu vois, si j'avais pas d'autorisation de découvert, je pense que ce serait plus simple. Tu vois, une fois que j'ai plus rien à dépenser, j'y pense plus.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Là-dessus. Et en fait, je pense que j'aime distribuer mon argent.
Tu okay. Tu le donnes ?
Ouais, non. C'est plus que j'ai... Il y a plein de gens qui ont cette espèce de maladie toquée, c'est d'acheter plein de livres. J'en achète un milliard, je peux en acheter 2-3 par semaine dans la librairie café où je vais tout le temps, que j'adore. Mmh. Et ça peut coûter, je sais pas, 30, 40, 50 balles. Ça va vite. Mmh. Et je les lis pas. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que ces livres, c'est... quand je regarde depuis des années, c'est symptomatique de tout ce que j'ai vécu. Donc, il y a un moment, j'étais dans une phase New Age ou développement personnel. Avant, j'étais au
donc,
début...
Donc, t'as acheté plein de livres, c'est ça ?
Là-dessus,
à ce moment-là.
Ouais. Okay. Avant ça, j'étais sur la phase freelance, développer son activité. Donc, j'ai eu plein de bouquins là-dessus. Maintenant, c'est beaucoup plus autour du féminisme. Là, je me suis séparée, donc c'était beaucoup plus autour de... les relations amoureuses, j'ai même acheté Sortir l'hétérosexualité, enfin tu vois, le génie lesbien, enfin tous les bouquins comme ça en mode c'est bon les mecs, c'est fini, sauf que en fait c'est trop hyper mental et j'ai fait non, en fait lâche l'affaire. Et du coup, une fois que j'ai acheté les bouquins, bah, en fait il y a un truc un peu anxiogène de non, c'est bon, le jour où j'aurai envie de les lire, je les lirai. Et du coup, là, de l'autre jour, je suis allée voir les copines de la librairie et je leur ai dit bah écoutez, il y a plein de bouquins que je veux pas lire, je vous les rends, puis vous les donnerez aux assos. Mais s'il y en a pour 300 balles, il y en a pour 300 balles, je vais pas me faire chier à les revendre. Et pareil, j'ai plein d'affaires où j'en veux plus, je les donne. Je m'en fous. J'ai pas envie de me battre pour 20 euros, quoi.
Et pourtant, tu t'en aurais besoin de ces 20 euros.
Grave.
Ok.
Tordu.
Non, alors, tordu, c'est jugeant, tu vois. Mm-hmm. Donc, je suis pas du tout dans le jugement. C'est juste, j'essaie de comprendre un petit peu ce qui se passe dessous, quoi. Tu vois, c'est que tu pourrais récupérer de l'argent, peut-être, tu dis 20 balles ou 300 balles, ce qui, à mon avis, 300 balles te change la vie aujourd'hui.
Mm.
En tout cas, te change ton quotidien, quoi. Mais tu préfères les donner.
Ouais.
Parce que si t'as 300 balles sur ton compte en banque en plus, qu'est-ce qui se passe ?
Je sais que potentiellement, je pourrais les dépenser. J'ai peur de ça. J'ai peur de me dire que je vais tout dépenser d'un coup. En fait, la seule chose qui me cadre et qui me régule, c'est le moment où je peux plus dépenser. Tu vois, là, j'ai ma carte bleue. En fait, j'ai une autorisation de paiement par carte bleue qui n'est pas élevée, mais il y a peut-être qu'il y en a que ça va faire hurler, mais c'est 500 euros par mois. Sauf que t'achètes un billet de train, t'as une dépense exceptionnelle, qui m'arrive un peu tous les mois. Mais tu vois, là, je me suis acheté, dès que j'ai eu de l'argent, là, j'ai eu une super mission freelance. J'ai eu de l'argent et là, j'ai fait, c'est bon, j'en peux plus d'avoir la même paire de choses depuis 2 ans, 3 ans, qui va avec rien, qui me tient plus les pieds. Donc, je me suis acheté des Doc Martens, donc 200 balles.
Qui te flingue les pieds, donc.
Qui me flingue.
T'es arrivé, t'as dit, putain, j'ai les pieds en sang.
Avec lesquels faut pas faire de rando.
C'est pas adapté. Hein.
Bah, j'ai marché, je pense, 8 km hier matin.
Avec des docks neuves.
Avec des docks neuves, non, grosse intelligence. Du coup, j'ai perdu le fil, ça m'arrive souvent.
Non, mais donc, oui, tu disais que t'as récupéré de l'argent avec une mission et que t'as acheté des docks.
J'ai acheté des docks. Et du coup, ouais, quand ça coûte 200 balles et que ta carte bleue, tu peux payer que 500 balles avec, bah, ça va très vite. Donc tous les mois, parce que comme j'ai un dossier Banque de France, je ne peux pas avoir une autorisation d'augmentation de plafond de carte bleue au-delà d'un mois. Tous les mois, j'appelle mon banquier pour faire coucou. Et pareil avec mon autre compte, ça c'est sur la Société Générale, sur Boursorama, ça doit être dans le même genre. La Banque Postale, oui, plein de comptes en banque. C'est encore autre chose. Et là, du coup, j'ai découvert un truc merveilleux qui s'appelle Lydia. Et en fait, on peut avoir une carte bleue virtuelle. Du coup, je passe ma vie à payer avec. Et du coup, je fais des transferts immédiats entre Boursorama et Lydia. Et j'ai pas de plafond. Et du coup, là, depuis que j'ai découvert ça, c'est freestyle. Tu vois, ce week-end, en tout, j'ai dû dépenser. Après, c'est particulier, mais 300 balles, parce que j'ai fait 80 balles de course. Samedi à Nantes, mais hier, j'ai acheté un cachalot en plastique parce que j'adore les cachalots, un livre pour enfants. J'ai invité mon pote à déjeuner parce qu'il m'héberge et que c'est un amour et que voilà, j'avais envie d'offrir un truc. J'ai acheté des petites fleurs. je me suis acheté des compis de x4 et ça coûte 20 balles en tout. Et en fait, pareil aussi, j'ai donné 50 balles à ma cousine parce que son père vient de décéder, il est endetté, elle doit payer les obsèques, enfin tu vois, et... Mais j'étais en mode, vas-y, t'as de l'argent. Même si j'en ai pas un milliard, là, je suis à découvert. Mais j'ai fait, vas-y, on s'en fout. En fait,
donc, l'argent que t'as eu, j'imagine, en fin de semaine ou au milieu de semaine, tu l'as déjà dépensé.
Ouais.
Ok. T'avais eu combien en tout ?
Non, en fait, depuis début décembre, j'ai une mission qui m'a un peu sauvé les miches. Où en tout, c'est sur 4 mois, c'est, je crois, 13 000 euros en tout.
Ok.
Je suis à 3 000, je ne sais plus le calcul, mais à 3 600 bruts par mois pour 4 jours par semaine. Qui va se transformer en CDD normalement en avril, à moi la retraite. Non mais ça fait 3 ans que je cotise rien, bon je m'en fous, je compte pas dessus, mais bref, ça coûte cher d'être freelance aussi. Et du coup ça va, je m'en sors beaucoup mieux. Je sais plus, je vais dans tous les sens.
Non, enfin, tu t'en sors. Je te guide, t'inquiète.
Merci.
En fait, ce qui m'intéresse, c'est, en gros, cet argent-là, t'es à la fois contente de l'avoir, il te rentre sur ton compte en banque, mais j'ai l'impression que, en gros, tu le dépenses aussitôt que tu l'as, quoi.
Ouais.
Qu'est-ce que tu vas chercher ? Qu'est-ce que tu achètes quand tu dépenses cet argent ?
Beaucoup de livres, de la thé.
Non, je te parle pas de ça.
Ah, qu'est-ce que j'achète ?
Qu'est-ce que tu achètes ? Pas qu'est-ce que tu achètes ? Qu'est-ce que tu achètes ?
Ok, qu'est-ce que j'achète et pas qu'est-ce que j'achète
Qu'est-ce que tu vas chercher comme émotion? En fait, tu l'as pas précisé, mais en gros, ça fait un an que tu as arrêté d'écouter Histoire d'argent. Ouais. Et je te disais, ah, mais c'est bien dommage, parce que pour moi, le podcast, il commence. Il a commencé à devenir intéressant depuis environ un an, où, tu vois, typiquement, c'était le genre de question que je posais pas au départ, quoi. Mmh. Tu vois, qu'est-ce que tu vas acheter comme émotion?
Du réconfort, de la sécurité. Déjà, il faut savoir, truc trop bizarre, mais c'est très compliqué pour moi de me dire que je vais sortir en ville et que je ne vais pas acheter un truc.
Ok.
Je n'ai pas besoin d'acheter un truc de ouf, hein. Ça peut être un café à 2 balles, mais j'ai besoin de savoir que je vais acheter un truc. Et je suis incapable de savoir pourquoi, mais ça m'apporte une forme de réconfort, je vais m'asseoir quelque part et je vais m'acheter un moment. Donc je peux m'acheter un moment, du réconfort. Mais en ce moment, enfin surtout depuis que j'ai de l'argent, et c'est... Je dépense essentiellement sur le corps. Tu vois, là, j'ai fait un truc que j'ai jamais fait de ma vie avant, mais j'ai commencé à faire des manucures avec du semi-permanent. Oui, oui.
Pas mal.
Mais j'ai jamais fait ça de ma vie, parce que
c'est
j'étais en mode...
C'est pas du tout radiophonique, mais tes ongles sont magnifiques.
On pourrait mettre une photo de maison. Non, mais j'ai jamais fait ça de ma vie. Pour moi, c'est des dépenses superflues. Pareil, dès que j'ai été payée de ma mission, là, la première paye, j'étais au hammam. Je me suis refait percer le nez, parce que le premier piercing avait un peu foiré. J'ai fait mes manucures, enfin mes trucs, et je vais dans des endroits qui sont cool, tu vois. Je vais pas dans des trucs one shot dans un centre commercial pour me faire les ongles, et c'est que par le corps. Ça va être des cafés, ça va être des moments avec voilà.
C'est ton truc du moment en tout cas. C'est ça, c'est moins les bouquins plus les ongles.
Les bouquins, les ongles, mais c'est surtout être dans des endroits réconfortants.
Okay.
J'ai besoin d'avoir mes zones de confort, donc là où j'habite, j'ai mes spots. Tu vois. Okay.
Et c'est des endroits où tu dépenses de l'argent.
Ouais.
Est-ce que tu as en tête que tu pourrais aller dans des endroits... Je ne sais pas si c'est ton envie, hein, mais je te pose la question. Que tu vis à Nantes, y a plein de super spots à Nantes, des parcs, des machins, où tu pourrais juste poser le cul et entre guillemets, t'acheter un moment trop bien sans dépenser de l'argent, voire même avec un des nombreux livres que tu as acheté et que tu ne lis pas, quoi.
Oui. Bah oui, oui, je l'ai fait. Enfin, je l'ai fait. Ouais, je peux le faire, mais je me dis que j'aurais au moins besoin de me payer un café.
Ok, ok.
Mais psychologiquement, tu vois, c'est très très bizarre.
Pourquoi t'as besoin de dépenser de l'argent pour passer un bon moment? C'est ça ou peut-être c'est différent, j'en sais rien. Je te pose cette question, parce que c'est...
J'ai l'impression que c'est symbolique. C'est symboliquement, je peux m'acheter un moment, j'ai les moyens, tu vois. J'ai pas toujours eu les moyens. Il y a eu un moment à Paris où j'étais surendettée, j'avais pas encore mon dossier de surendettement, où le 11 du mois, je pouvais plus rien payer. Une fois que j'avais payé mon loyer, la totale, mais je pouvais plus me payer à manger non plus. Et j'arrivais pas du tout à le dire à mes potes.
Là, c'est le cas, non? Tu viens de dire que t'étais à Découvert?
Ouais, je suis à Découvert, mais je peux me payer à manger. Là, je vais avoir une facture qui va tomber. Okay. Et en fait, j'ai des sous de côté.
Parce qu'on est le 11 du mois.
Ouais, mais j'ai des sous de côté, parce qu'il faut que je paye mes charges URSSAF. Donc, je suis pas... réellement à Découvert, mais je ne veux pas toucher à ce que j'ai payé à mes charges URSSAF dans un mois.
Ok. Si je te dis argent, qu'est-ce que ça t'évoque?
Pouvoir de et pas pouvoir sur. En fait, j'ai repensé, là, j'ai réécouté donc, ton podcast à Christian Junot. Et pour moi, je vois beaucoup la dimension politique. L'argent peut soutenir des projets vraiment cool. Et pour moi, là où je mets mon argent, c'est là où je donne mon énergie, où je donne de l'énergie au lieu où je le soutiens, tu vois. La librairie café où j'adore aller, le fait de leur donner de l'argent, c'est important pour moi. Là où je me fais faire les ongles, c'est dans un salon de beauté à côté de chez moi, c'est plus cher, tu vois, c'est 35 euros la manucure plus ça, là, le vernis. Mais c'est important pour moi de leur donner de l'argent, c'est un business local, elles sont vraiment trop chouettes. Et pareil aussi, je suis très sensible sur les questions de les sujets de transition sociale, sociétale, écologique. Et je sais que l'argent, le fait d'être à Découvert, tu vois, c'est presque un acte militant parce que du coup, tu donnes pas de l'argent à la banque qui va pas investir dans des industries pétrochimiques et tout ça. Tu sais qu'en termes de bilan carbone, si tu as de la thune dans une banque dégueulasse, genre BNP Paribas ou Société Générale, typiquement, tu peux avoir un impact carbone vraiment dégueulasse. Donc, une des manières les plus rapides de diminuer. Non, mais c'est vrai! Oui, je...
Tu te rends compte de l'histoire que tu es en train de te raconter là?
Mais c'est pas une histoire que je me raconte, c'est factuel. Si
non,
tu fais
c'est pas ce que je te dis, c'est juste que j'ai l'impression que tu dépenses de l'argent très vite, très rapidement.
Ouais.
Et que, en gros, plutôt que de regarder ce truc là en face, tu vois, tu es en train de te dire, vous savez pourquoi je fais ça ? C'est pour faire en sorte que, effectivement, mon argent ne serve pas à des causes. Mais t'es... Waouh ! Tu vois, en fait, en vrai, ce que tu fais de ton argent, c'est avant tout en toi, quoi. Tu vois, ça n'a strictement rien à voir avec la banque. Et en fait, si t'as pas envie de mettre ton argent dans une banque qui est sale, entre guillemets, bah, mets-la, tu peux la mettre ailleurs aujourd'hui. Il y a plein d'offres, tu vois.
Toi, c'est ouf, là, émotionnellement, ça m'active de ouf. Je pleure hyper vite.
T'inquiète.
En fait, il y a autre chose aussi. Quand je suis arrivée à Nantes en 2019, j'étais vraiment dans la merde financièrement. En plus, par rapport à ma maladie psy, je pourrais en parler après. J'étais en dépression grave, avec hospitalisation et tout ça. Et en fait, j'ai commencé à côtoyer des potes qui sont vraiment dans cette espèce de milieu de transition, sobriété à fond, sortir du travail. Enfin là, après Nantes, on est un peu vénère niveau militantisme et tout ça. Et en fait, ils étaient dans une forme d'hyper sobriété, genre on récupère de la bouffe dehors, etc. Et on consomme rien et tout ça. Et moi, j'étais à fond là-dedans. Et j'avais l'impression que je faisais jamais assez pour être sobre. Tu vois, j'utilisais trop le frigo et du coup, on n'est pas obligé de mettre autant de trucs au frigo. J'achète des bouquins, j'achète des trucs électroniques, je sais pas, mon ordi, mon machin, et j'avais l'impression de pas être assez sobre encore et encore et encore. Et je me suis rendu compte après coup que je m'en servais aussi comme excuse pour me dire le fait d'être sobre, c'est aussi pour m'empêcher de rêver du fait que qu'est-ce que je ferais si j'avais de l'argent, parce que j'avais plus d'argent du tout, très peu. Je me disais, mais en fait c'est ça, j'ai envie d'être sobre, j'ai envie de cette vie là, j'ai envie d'avoir un impact cool sur la planète. Mais ça m'arrangeait bien, tu vois. Et je suis un peu sortie de ça maintenant.
Ok.
Maintenant, je dépense comme une ouf.
Ouais.
Dans des trucs de... Non, mais je fais attention quand même.
Ok. Donc, en gros, t'avais trouvé une façon qui te convenait bien de ne pas régler ton problème avec l'argent, quoi. En tout cas, ta relation à l'argent qui est pleine d'émotions et plein de trucs.
Ouais. J'ai un truc vraiment pareil qui m'est venu plus tard. Enfin, c'est une réflexion quand même assez récente parce que j'avais pas de place pour réfléchir à ça tant que j'étais encore dans ma relation précédente. C'était que pour moi, ne pas avoir d'argent m'empêchait de rêver parce que je m'autorisais pas à me rêver. Tu vois, je pouvais pas me payer des vacances. Je me dis, c'est bon, je suis freelance, je travaille comme je veux, donc c'est cool, j'ai pas besoin de vacances. Tu vois, je me racontais plein d'histoires comme ça. C'est bon, je vais pas... me payer un resto, je suis pas très resto, et voilà, puisque c'est bon, j'ai pas besoin, on se fait à bouffer, à emporter dans un tupperware, on va au bord d'une rivière ou je sais pas quoi, de la Loire, et puis c'est cool. En fait, je me racontais plein d'histoires comme ça, de c'est cool en fait, sauf que là, depuis que j'ai été payée, depuis que j'ai ma mission à nouveau, je me suis rendu compte que il y a beaucoup de choses que je m'empêchais juste de penser, tu vois, enfin... Là, je suis allée voir ma meilleure pote qui était de passage en France, qui habite à Vancouver, mais qui est revenue... dans le sud de la France, on était à Uzès, là, c'était trop cool. Mais avant, je me serais jamais permise de faire ça. Ou en tout cas, je me serais dit, putain, je suis en train de vraiment me foutre dans la merde, quoi. Je peux pas me permettre de faire ça. Et là, maintenant, je me dis, meuf, t'as le droit. T'as le droit de faire ça, parce que t'as l'argent, t'as le droit d'en faire ce que tu veux, c'est ton argent. Mais ça fait pas longtemps que je pense comme ça. Quand t'es endetté, quand tu dois de l'argent à la banque, pendant des années, pour moi, c'était jamais vraiment mon argent. Tu vois, c'est-à-dire que tu fais rentrer de l'argent, mais il va ressortir. Et t'achètes même pas un appart, rien, c'est du vent, tu vas le rembourser dans le vent, donc...
Ouais.
Voilà, enfin bref, là je suis partie en note.
Non, mais on va en reparler de ton endettement et t'étais un peu dans un cercle vicieux, quoi.
Ouais.
On peut parler de ton premier souvenir lié à l'argent ?
Ouais, celui-là, il est cool. Ouais. J'en ai deux. Mon beau-père vient de l'île de Wight, c'est en face de Belle-Île-en-Mer, c'est la plus belle île du monde.
Il paraît que c'est magnifique.
C'est canon, faut que tu y ailles, c'est ouf. En fait, t'as trois îles, bref, Edic, Wight, bon, je pourrais en parler pendant des heures aussi. Et du coup, ils ont une maison de famille, puisqu'il a grandi là depuis qu'il est tout petit. Et en fait, j'y vais depuis que je suis toute petite avec ma mère, qui m'emmenait là, qui travaillait comme une ouf. À l'époque, on habitait à Paris quand j'étais toute petite, mère célibataire. Et en fait, depuis toute petite, je vais vraiment... Ça fait 33 ans que j'y vais. Et nous, en fait, ce qu'on faisait, les enfants, on ramassait des coquillages, on les coloriait et on les vendait sur le bord de la route. Enfin, la route, il n'y a pas de route à Wight, il n'y a pas de voiture.
Oui.
Et après, on avait des sous. Et après, on allait direct à la boulangerie et on achetait des bonbons.
Des bons becs.
Et on dépensait tout. Et vraiment, sentiment de ouf. Tu vois, tu fais un truc de ouf. Tu joues à l'adulte, tu joues à l'épicerie. mais t'as vraiment la possibilité de t'acheter des bonbons. Mmh. Et j'en ai une deuxième, c'est mon argent de poche, c'était quoi, 10 francs par semaine, quand on était encore en francs. Et j'avais 8, 9, 10 ans et je passais mon temps à la librairie Maison de la Presse, le village où j'habitais. Et je pouvais rester une heure à regarder les bouquins avant d'acheter le bon bouquin, littéralement. Et pareil, ça c'était un truc, genre ça avait vachement de valeur pour moi. Je dépensais l'argent que j'avais, mais c'était genre un truc hyper réfléchi.
Là où j'ai l'impression que t'as un peu laissé ça de côté maintenant et que t'es plus dans un truc de spontanéité, quoi.
Ouais, j'ai envie d'un truc, je le fais. Le pire, c'est que j'y pense, je vais le faire. Là, en ce moment, je me suis mise yonnée il n'y a pas longtemps en mode ouais, c'est cool. En plus, j'ai plein de cheveux blancs, donc ça me fait des effets colorés. T'as l'impression que j'ai fait une couleur de ouf chez le coiffeur, alors que ça m'a coûté 11 balles. Et là, maintenant, je me suis mise en tête que je veux vraiment être rousse. Donc là, j'ai écrit à mon coiffeur que je kiffe trop. Et je lui ai dit, on va faire un devis. Je suis sûre que ça va me coûter 130 balles, tu vois, ça coûte hyper cher. Et je me suis mise ça en tête et je sais que je vais le faire. C'est même pas la peine d'essayer de me raisonner, j'ai décidé, c'est bon.
Ok.
Voilà, alors qu'avant, c'était je vais acheter le bon truc. Mais parce que cet argent-là, quand t'as 10 francs par semaine, après, c'est passé à 2 euros par semaine. Mais tu fais pas n'importe quoi avec, tu peux pas t'acheter 1000 trucs, quoi. Quand tu dois mettre 8 balles, 8 euros dans un bouquin, c'est un mois. C'est un mois d'économie.
Ok.
Voilà.
Et aujourd'hui, c'est plus dur d'économiser pour toi ? T'arrives pas à économiser ?
J'y arrive pas encore, mais en fait, le fait d'être enfin bien payé en mission freelance, donc 3600 euros par mois pour les 4 jours, je sais plus si je l'avais dit. Mmh. Ouais. Du coup, ça me fait quoi ? Je sais plus, 2000... Bon,
oui, c'est ça, c'est 3600 brut.
En brut, donc ça doit faire 2000... 2009.
Faut enlever 20%, c'est ça ?
Ouais, 23,5% avec les impôts. Je suis au taquet sur les chiffres.
Bien beau.
Comme je suis en libéral, 2009, et du coup, je mets juste l'argent de côté, là, déjà, du prélèvement. Mmh. Et...
Rien que ça, c'est énorme, déjà, j'imagine, pour toi.
Ouais, mais je sais que c'est de l'argent que j'ai pas normalement du tout, mais oui.
Non, mais t'as quand même déjà capté qu'il faut que t'enlèves 25% de...
Ouais.
De ce que tu factures et qu'il va falloir que tu le payes tôt ou tard, quoi.
Ouais, surtout que je suis passée au trimestre, alors.
Si t'as tendance à claquer, tu peux très bien te dire non, mais ça, c'est pas grave, je le claque et puis on verra plus tard, quoi.
Ouais. Ouais. Mais là, j'essaye. Et là, en fait, c'est trop drôle parce que juste avant de te rejoindre, j'étais dans un café à côté de chez toi et j'ai fait mes comptes.
Okay.
En fait, non, j'ai fait l'état des lieux de mes dettes. Et du coup, j'ai écrit à ma mère parce que je lui dois de la thune, genre « Ouais, je vais recommencer à te payer dès que j'ai mon CDD, normalement c'est avril. Mais du coup, ça sera sûrement à partir de début juin quand j'aurai eu ma deuxième paye. Et puis je pense te donner ça par mois. Et puis j'ai calculé, tiens, sur 4-5 ans, si je prends mes dettes globales, ça fait combien par mois ? Ça fait 741 euros et quelques. » Enfin, tu vois, j'étais en mode, c'est presque, j'ai fait mes devoirs, mais pas vraiment pour ce podcast. Je sais que j'ai besoin d'un... J'ai le mot en anglais, c'est incentive, d'un truc qui me...
Oui, d'un but ou de...
Ouais.
Oui.
Mais très, très sur le moment. Ouais. Un truc qui me motive et là, bon, du coup, j'étais là, bah ouais, c'est super facile.
Alors, parce que tu venais faire ce podcast, tu t'es dit, ok, c'est le moment de mettre tout à plat.
Okay, d'être clair, je me suis dit, je vais lui donner les bons chiffres, tu vois. Mais pas en mode bon élève, genre, je vais me faire taper sur les doigts. C'est genre, bah non, faut au moins que j'ai les bons chiffres.
Non, oui, je...
Tu vas pas vérifier.
Je tape sur... Alors oui, c'est vraiment ton histoire.
Ouais.
J'aimerais bien qu'on parle de tes parents, de l'éducation que tu as reçue autour de l'argent.
C'est-à-dire aucune.
Bah ok, mais si, forcément tu as reçu une relation à l'argent. C'est-à-dire que tu as reçu des petites phrases, tu as reçu des peurs, tu as reçu peut-être des histoires qui ne te concernent pas, tu vois.
Ouais.
Qu'est-ce que tes parents faisaient, font dans la vie ?
Alors, c'est particulier. Mon père est anesthésiste réanimateur. Il n'a jamais été présent dans ma vie et il n'a pas donné une thune. Mais c'était un deal avec ma mère, je pourrais l'expliquer après. Ma mère est sage-femme. Donc, c'est la première, je dirais, parmi ses frères et sœurs, je dirais que c'est la plus diplômée. Les autres, c'est plus aide-soignant, accompagnateur d'adultes handicapés. Dans le care, que dans le care, la famille. Une cousine infirmière, ils sont tous, c'est assez drôle.
Ils prennent soin.
C'est ça. Mon beau-père est marin-pêcheur, il est à la retraite. Il pêchait sur l'île de Watt, donc parce qu'il est né là-bas, avec ses 10 frères et sœurs, dans une toute petite maison, ouais, c'était le truc. Et voilà. Et lui, après, il est parti pêcher en mer d'Écosse. La pire pêche au monde, mais il n'y avait pas le choix. Travailler sur des bateaux d'Intermarché qui défoncent les fonds marins, mais un truc de ouf. Mais voilà. Et donc ça, c'est leur métier. Et donc moi, je suis un enfant extra-conjugal.
Ok.
L'histoire entre ma mère et mon père, elle est hyper compliquée. Pour te la... Je sais pas trop ce que je dis. Parce que je l'ai raconté plein de fois. J'ai deux demi-sœurs, plus âgées que moi. Une qui a 6 ans... 5-6 ans de plus que moi, l'autre qui a 1 an de plus que moi. Mmh. Mon père, il était à Paris. Ma mère travaillait à Paris aussi à l'époque. Ma famille est vendéenne. Voilà. Ventre à choux, bouffeur de beurre doux. Bon, on leur en veut pas.
J'ai pas compris ce que t'as dit.
Les ventres à choux, c'est... Ils mangent du chou.
Ok. Bouffeur de...
Beurre doux.
Ah, de beurre doux.
Ouais,
putain,
pardon.
Oui. Ok, pardon. Oui, beurre doux, beurre salé. J'avais...
Ouais. Tu pourras couper cette bafouille.
Mais non, t'as pas bafouillé, c'est moi qui ai pas compris.
Ok. Ouais, c'est normal que tu comprennes pas, ce mot est horrible. Et du coup...
Il y a des travaux dans l'immeuble, j'adore ça, pardon.
Je sais plus ce qu'on se disait.
Bah, tu m'en racontais un petit peu l'histoire que t'es née d'une relation extra-conjugale.
C'est ça. Et voilà, au boulot, donc mon père s'occupe des femmes enceintes, tu sais, les péridurales.
Ouais.
Ils se sont rencontrés au boulot, il lui a fait du pied sous la table, elle a résisté un moment, parce qu'elle savait qu'il était marié. Puis ils ont commencé une relation. Le soir de la naissance de ma grande sœur, la dernière, ma mère est tombée enceinte de jumeaux. Je te laisse imaginer le truc.
Quoi ?
Et bah, le soir de l'accouchement de la femme de mon père était avec ma mère après. Et ma mère est tombée enceinte. Il les a voulu, pas voulu, c'était... voilà, ça s'est fini par... comme c'est un lâche et qu'il prend pas de décision, elle a avorté. Ça s'est très mal vécu, elle a fait un truc, voilà. J'appelle ça un saut de l'ange.
Je sais pas ce que c'est.
Sauter du 5e étage. D'un immeuble. Et,
qui a fait ça, pardon, j'ai pas...
Pardon, ma mère. Après avoir avorté, c'était trop dur et elle a sauté. Parce qu'elle a fait une tentative de suicide, quoi.
Et elle est morte ?
Bah non, elle est vivante.
Elle est toujours vivante. C'est pour ça que je t'avoue que j'étais...
Non, elle est vivante.
Elle a sauté du 5e étage et elle en est...
Elle est passée à travers le toit d'un garage. Et voilà, elle était toute maigre. Elle n'avait plus de règles. Les médecins lui ont dit, on pense que vous n'aurez plus d'enfants. Enfin, c'est pas possible, quoi. Et en fait, avec mon père, ils ont recommencé à se voir. Donc ça, c'était en juin. Ils ont recommencé à se voir et ils ont recommencé à avoir des relations sexuelles. J'utilisais du spermicide, enfin bref. Ma mère est tombée enceinte en octobre. Et là, elle lui a demandé si c'était OK de me garder. Elle m'a dit il n'y a pas très longtemps qu'elle voulait un enfant qui ait ses yeux. Elle a réussi. Et du coup, il a dit OK. Mais je pense que... Il ne me voulait pas, mais je crois qu'il me l'a dit. Mais je pense que c'était... Il savait que... Moi, je suis persuadée que s'il disait non, ma mère, elle en mourrait. Enfin, c'est mon hypothèse, elle ne me l'a pas dit comme ça. Tu veux des blagues de la blague ? Le terme, c'était le jour de l'anniversaire de ma mère, l'année suivante. Je suis née 3 jours avant. Voilà. Et il l'a aidé les premières années... parce que sage-femme à Paris, jeune sage-femme, à l'époque, ils faisaient des gardes de 48 heures, tu vois, mais c'était un peu vénère. Et du coup, les premières années, j'étais quand même beaucoup chez la nounou. J'ai été élevée par beaucoup de femmes. Et ma mère, bah, m'élevait comme une mère célibataire. Mon père, il a 2 autres filles. Sa femme ne savait pas, et mes sœurs non plus ne savaient pas. Et voilà. Et du coup, à 5-6 ans, ma mère s'est barrée, je crois, pour sauver la peau de Paris. Et moi, j'ai pas connu mon père. Et voilà. En gros. Donc en fait...
T'as des contacts avec lui aujourd'hui ou...
J'en ai eu... Enfin, à 18 ans, j'ai débarqué dans sa clinique en mode... Tu sais, entre deux rendez-vous. J'ai fait « Salut, je suis ta fille. » J'ai débarqué de Nantes en mode « J'ai pris le train, j'ai pris une chambre d'hôtel. » Et du coup, on a beaucoup discuté. Il a pleuré, j'ai pleuré. Il m'a filé 200 balles pour me défrayer. En espèces. Et puis il m'a dit oui, on s'écrira, nanana, ça s'est jamais fait. Deux, trois ans plus tard, j'ai fini par le traiter de connard et je lui ai dit je veux plus jamais entendre parler de toi, enfin voilà. Et je lui ai écrit 6-7 ans plus tard pour lui dire que j'aimerais bien que mes sœurs sachent que j'existe, parce que c'était important pour moi. J'ai même une photo, je lui ai dit c'est creepy, hein, c'est de quand je suis petite bébé où je suis dans le bain avec ma sœur, la plus grande, parce qu'on était petite et on s'en souvenait pas. Enfin tu vois, on a partagé des moments... Et en fait, il ne voulait pas, il hésitait, c'était compliqué. Je lui ai laissé 3, 4, 5 mois. Il m'a dit, ah, je ne pensais pas que tu voulais que je prenne une décision aussi vite quand je l'ai relancé. J'étais là, oui, 27 ans, ça va de réflexion. Et puis un jour, je savais où était ma sœur à Paris. Elle bossait dans le même quartier que moi, elle habitait dans le même quartier que moi. Enfin, c'était complètement fucked up et ce n'était pas fait exprès. Je suis allée la voir et, dans un bar et je fais salut, je suis ta sœur. J'en ai fait plein comme ça. Et en fait, elle s'en doutait. Elle m'a dit, elle l'avait déjà dit à des potes, je suis sûre qu'il y a quelqu'un d'autre. Et voilà, elle l'a dit à sa sœur. Mon père l'a dit au milieu de la nuit à sa femme. Enfin bref, drama. Et du coup, bah, cette histoire, c'est un peu un truc où... je t'ai fait l'histoire de ma vie. Mais ma mère, elle m'a élevée seule. Après, mon beau-père est arrivé, j'avais 5 ans. Je pense que c'est comme un père pour moi aujourd'hui, même si je l'appelle par son prénom. Fun fact, demain j'ai rendez-vous avec le notaire parce que je vais me faire adopter. Adoption d'adulte.
Okay.
Et comme ça, je vais enfin pouvoir avoir son nom de famille. Parce que j'ai le nom de famille de personne, ni de mes petits frères, ni du côté de la famille de ma mère, personne. Donc je suis un peu une bâtarde, quoi. Je suis complètement une bâtarde, tu vois.
Mais t'as le nom de famille de ta mère ?
Non, de mon père, il m'a reconnue.
Ok.
Donc, je suis une bâtarde qui a pris la place de jumeaux, qui m'avait préparé le terrain, tu vois.
Qui a pris la place de jumeaux ?
Tu sais, les jumeaux qui étaient avant
ah
moi.
Ah oui, ok.
Pardon, c'est un peu, ouais. Bah ouais, c'est un peu ça, c'est que j'ai la perception que, tu vois, c'est un truc, tu vois, que j'ai, en fait, je matérialise beaucoup dans la vie, ce que je ressens. Et j'ai l'impression que je suis en dette de deux vies. Que ma mère a donné sa vie, elle a bossé comme une ouf pour me payer des vacances, elle faisait des gardes de 48 heures, elle me voyait pas quand j'étais petite, j'étais chez énormément de nounous.
Mais ça c'est ta mère.
Bah
c'est,
ouais.
C'est son job entre guillemets.
Oui, c'est son choix, elle voulait me payer des vacances, etc. Mais du coup, il y a des moments je la voyais pas beaucoup.
Ok.
Et elle a fait énormément de sacrifices, donc tu vois, j'ai ce truc de j'ai des dettes, j'ai plein de dettes. Et finalement, j'ai des vraies dettes aujourd'hui.
Ouais.
Et ma mère, sa manière de faire les comptes, pour tout dire, parce que mon père, du coup, non, il fait pas partie du... je la revois faire ses comptes, tu sais, elle prend tous ses tickets de carte bleue, puis à la fin du mois, elle les check pour faire le rapprochement. Mais je la vois pas faire autre chose que ça. Et mon beau-père, je sais pas trop, j'ai pas l'impression que ce soit un gestionnaire, c'est ma mère qui gère à la maison.
Ok.
Et voilà.
Tu te rends compte qu'il y a un truc qui est sans doute lié entre ta... Comment dire ? Le fait que tu sois un enfant né d'une relation extra-conjugale et l'idée même que, tu puisses profiter de la vie, quoi. Quand tu dis que t'es en dette...
C'est le sentiment que j'ai.
Bien sûr. Mais je le comprends en plus.
Ouais.
Vraiment. Non seulement je le comprends, mais ça... Quand t'en parles comme ça, ça paraît... Évident.
Tu vois, j'en mets de l'eau partout par terre. La meuf, je tremble. Je suis en train de ruiner les bouquins de...
T'inquiète, c'est pas
grave. Tiens, voilà. Bouquins de Bell Hooks. À propos d'amour. Ouais. Ouais, ouais, ce sentiment, il est très fort. Et tu vois, aujourd'hui, je dois de l'argent à ma mère. Je lui dois encore 6 000 euros. Enfin, tu vois, j'ai... Mes dettes, elles sont... Je sais pas, pour te donner juste une anecdote... quand je me suis séparée de mon ex-conjoint, là, j'ai acheté un lit, une place. Parce que dans ma tête, j'étais là, c'est bon, j'arrête les relations amoureuses, on me fout la paix. J'ai un lit, une place, c'est concret, tout ça. Et en fait, j'ai besoin de ce concret-là qui est, je pense, mon argent sert aussi à ça, à matérialiser le bordel intérieur.
Ouais. Il y a tout un truc autour de... L'enfant non désiré dans le travail de Christian Junot qui est trop intéressant. Donc, tu as lu son bouquin, c'est ça ?
Non.
Où il raconte qu'il y a un peu cette illégitimité profonde et ancrée de ne pas pouvoir profiter de ce que la vie peut t'offrir, tu vois. Comme tu dis, t'es en dette. Donc c'est incroyable, t'es en plein dessus, quoi. T'es en plein dedans. Et forcément, ça vient se matérialiser dans l'argent.
Ouais. Bah c'est
quand même la meilleure façon de se créer des dettes. C'est de mettre ce sentiment-là que t'es en dette dans de venir le projeter sur l'argent. Parce que je crois que si t'écoutais le podcast, s'il y a bien un truc que t'as dû piger, c'est que l'argent, c'est juste un moyen de transaction, en fait, à la base.
Hein, c'est dans les airs, c'est complètement
éthéré. Et que nous, on décide, en tant qu'humain, de venir mettre des émotions dessus, parce que justement, c'est, pour moi, c'est un mur blanc, quoi. Tu vois, tu viens projeter ce que t'as envie dessus, quoi.
Ouais.
Et tu viens y projeter des émotions, tu viens y projeter plein de choses. Et j'ai un peu le sentiment que ce sentiment de... Ouais, voilà, tu vois, le fait d'être né d'une relation extra-conjugale a créé plein de choses chez toi dans ta relation à l'argent. Mais peut-être que je me trompe, hein, tu vois, mais le fait que tu dises « je me sens en dette », c'est énorme, quoi.
En fait, petit à petit, je commence à me détacher de... Je suis en dette de devis. Tu vois, j'ai pris une place que j'aurais pas s'ils étaient en vie, tu vois.
Tu te rends compte de ce que tu es en train de dire?
Ouais.
Tu te rends compte à quel point ça n'a rien à voir avec toi? Ça n'est pas ton histoire.
Bah, j'ai l'impression que si, tu vois, je sais que ma mère, elle veut pas trop que je la raconte, cette histoire, mais tu vois, il y a une partie de moi où cette histoire m'appartient, et en même temps, c'est son histoire, j'arrive pas trop à savoir. Mais tu vois, je me dis, c'est mon histoire, c'est mon arrivée dans la vie, quoi. Enfin, tu vois.
Oui, mais ça t'appartient pas.
J'arrive pas à l'enlever.
C'est-à-dire que si ta mère te l'avait jamais raconté, tu le saurais pas.
Je le saurais quand même, au fond. Ouais.
Ce que je veux te dire, c'est que ça ne t'appartient pas.
Mmh. Ouais. Intellectuellement, je le sais. Physiquement, émotionnellement, dans le cerveau, là, ça imprime pas. C'est du travail, hein. C'est un énorme travail. Mais je travaille dessus, mais... Pff. Au moins, je le sais.
Et donc, tu te sens en dette?
Ouais. Ouais, et concrètement, je suis en dette. Mais aujourd'hui, je suis en train de grandir. Ça y est, je reprends. Enfin, j'ai fait 3 ans de freelancing. Et je pense que je suis comme plein de freelances. Il y a un moment où on en a un peu marre de la précarité, de balancer 50 balles de mutuelle complémentaire par mois, plus une surcomplémentaire au cas où il t'arrive un truc... à AXA, parce que du coup, si t'as pas de salaire et que l'assurance maladie, si t'as un problème, un accident, une maladie, ils vont te payer rien du tout. Du coup, j'ai essayé de sécuriser ça, mais tout ça, ça me coûtait trop cher, quoi. Ça, plus les assurances pro, tu balances 150 euros par mois. Comme ça, tu cotises rien, machin. Donc, je suis contente de retrouver un CDD. Et d'être dans la construction, tu vois. Je suis sortie de ce truc que j'avais quand j'avais 22, 23 ans où, de toute façon, quitte à être en dette, je suis quand même descendue à découvert un moment jusqu'à moins 3005. La Société Générale, c'est quand même des fils de Darmanin, tu vois, parce que je suis très Darmanin d'émission. Voilà, je l'ai dit. Je sais pas si tu veux le couper, mais j'aime pas trop ce qu'il représente en tant que symbole. Mais donc, rien à voir. Mais c'est une meuf qui avait les dents qui raclent le parquet qui m'a fait signer un prêt pour mon école de commerce. Quand j'avais 20 ans, j'étais toute seule face à elle à Marseille dans une agence. Il y avait un prêt, un partenariat, j'ai eu un taux, je sais plus, 1,99, un truc. J'ai emprunté 35 000 euros, l'école ça m'a coûté 24 000 euros, quelque chose comme ça. Et le reste c'était pour financer ma vie. Enfin ma vie, voilà. Ma mère donnait un peu de sous, donnait des sous pour le loyer, et puis le reste, voilà, c'était pour vivre. Et elle m'a donné une carte à débit différé, Visa Premier. Laisse tomber, le pire truc, en fait, c'est un crédit sur le mois suivant. Et rien comme ça, la banque, ils m'ont mise dedans. Je suis jeune, j'ai 20 ans, j'ai pas d'éducation à l'argent, j'ai un accès illimité à mon prêt. Ils ont pas débloqué le truc par an, ou ils ont pas payé l'école de commerce direct. La meuf qui m'a vendu ça, mais pas de conscience, quoi. Et en fait, les conditions de merdage
potentiel était déjà là. Et après, en école de commerce, quand tu te retrouves et que tu n'en as pas conscience, entouré de gens qui ont de l'argent. On avait plein, j'étais en coloc avec une meuf, son père lui filait 1000 balles par mois. Il était, je sais pas, second à Royal Air Maroc, sa mère a travaillé chez Sanofi, enfin, ils ont de la thune. Une autre copine, bah, ses parents lui payent des fringues, des belles fringues. Et puis moi, j'essayais de m'aligner, je comprenais pas. Pour, tu vois, j'étais là, je veux faire partie de ce monde-là. Mmh. Du coup, j'ai dépensé tout le fin de mon prêt et j'ai pas pu payer ma dernière année. Donc ma mère a sorti 8000 balles de ses économies et elle a payé la dernière année.
Okay.
Et c'est pour ça que je lui dois encore 6000 euros. Là, ben, voilà. Donc les dettes ont commencé comme ça et puis après tu commences à rembourser.
Donc tu rembourses aujourd'hui ta mère, c'est ça, depuis presque 10 piges?
J'ai pas commencé tout de suite. Ça fait pas si longtemps. Mais c'est un accord entre elle et moi. On étale dans le temps, tu vois. Pas de pression, quoi. Et voilà. Mm. Puis quand tu commences à rembourser le prêt, ça pique, quoi. 500 balles. Mm. Et puis l'école de commerce, ils te vendent un truc genre salaire moyen quand tu sors 40 000 bruts. Ils précisent pas que dedans, t'as les salaires des consultants et des financiers. Et quand t'es commercial, et ben moi, mon premier salaire, j'étais commercial. Mon premier salaire, c'était mensuel 1500 bruts. Je touchais à 1250 net. Et après, t'avais le variable de prime. Mais la première prime que j'ai eue, c'était 90 balles, tu vois. Je suis montée au siège. Là, j'étais en région sur ce premier taf. Mais tu vois, quand tu touches 1250 euros et que tu rembourses 500 euros de prêt, plus ton loyer, plus tout le reste. Et après, je suis partie à Paris dans la même entreprise. Ils m'ont payé 1850 euros brut, 1500 net. Et j'étais là, ouais, une augmentation de ouf. Responsabilité en plus, 1000 fois. Plus de thunes pour manger le midi, comme t'as quand t'es commercial. Plus de voiture. Tu commences à être imposé sur la voiture. Je me suis fait niquer, mais de ouf. Je savais pas négocier. Mmh. Et ça a commencé comme ça. T'arrives à Paris, loyer à 725 balles. Fun fact, dans la même coloc que Florian que t'as interviewé, qui aime pas se faire, qui a du mal à se faire
payer des restos par sa meuf.
On était dans la même coloc avec les rats. Mmh. Improbable. Mmh.
C'est un vieux, ça, pour le coup, c'est un épisode du début du podcast. Quoi,
ouais. Mmh. Il est très cool. Et du coup, et c'était les débuts. Et puis après, c'est un engrenage, en fait. Le surendettement, il y a un super gars qui s'appelle... Enfin, je ne sais plus son nom, mais il s'appelle Eureka. H-E-U-R-E-K. Mmh. Et il a fait une vidéo sur le surendettement et j'ai les yeux... Enfin, je culpabilisais vachement, tu vois. J'ai l'impression d'être une profiteuse, d'être une incapable. La meuf, elle a les bacs plus 5. C'est aligner les chiffres sur un tableur Excel. Elle a la tête bien faite, donc elle est censée gérer, tu vois. Et en fait, non. J'ai découvert les mécanismes du surendettement et c'est hyper intéressant.
Et puis, ça n'a rien à voir avec le fait de savoir aligner des chiffres.
Oui, mais...
C'est de l'émotion. On en parlait juste avant.
Oui, mais dans ma tête, je suis censée savoir gérer.
J'ai accompagné quelqu'un qui est genre une énorme tronche du marketing, tu vois, qui passe sa vie, qui fait des stats, qui passe sa vie dans les tableaux Excel. Et en fait, elle me disait, dès que ça devient de l'argent, c'est-à-dire que c'est plus des chiffres, mais c'est juste des sous, elle dit, je vois flou. Je dis, bah, ok. Je dis, mais pourquoi? Parce qu'en fait, elle mettait une telle dose émotionnelle sur l'argent que... Elle avait la tronche bien faite, elle était capable de comprendre les tableaux, quoi, tu vois, sans aucun problème. C'est juste que l'argent, ça la voyait flou.
Et moi, ce qui est marrant, c'est que j'ai déjà géré des budgets avec mes différents tafs. Mmh. Le deuxième taf que j'ai eu, c'était un budget de 850 000 euros. Mmh. Là, je sais plus, mais ça va être gérer un budget pareil dans les mêmes montants. Même deux, trois fois plus, je sais plus. J'ai pas commencé sur ce truc-là. Les tableaux Excel, j'adore. Mmh. J'adore Excel et PowerPoint, passion dans ma vie. Et j'ai pas de problème émotionnel à gérer ça. Hyper facile, mais d'une facilité déconcertante. Mais quand tu mets moi face à ma relation à l'argent personnel, là c'est fini, il n'y a plus personne. Mais pour le coup, non, je vois pas flou quand je vois des chiffres, je vois des maths.
Mais je te dis pas qu'elle voyait flou quand elle voyait des chiffres. Elle voyait flou quand c'était de l'argent.
Hein.
Quand c'était un tableau Excel avec de l'argent dedans. Donc c'était les mêmes chiffres, sauf que c'était des euros à la place de, je sais pas, tu vois, autre chose.
Il fallait
qu'elle
enlève le petit signe euro, tu sais.
Mais peu importe, c'est qu'en fait, c'était un budget.
Ouais.
Donc dans sa tête, c'était complexe, quoi. Tu vois la différence ? Et là, c'est un peu différent parce que là, tu c'est pas ton argent. C'est l'argent de l'entreprise ou c'est l'argent de ton budget, enfin peu importe. C'est pas l'argent de, c'est pas ton argent perso, quoi.
Et pourtant, bah, tu vois, là, j'ai à cœur de bien gérer le truc. Là,
bah, tu vas y arriver en plus sans aucun problème.
Ah ouais, mais facile.
Oui, facile. Mais c'est pas ton argent.
Ouais, j'adore. C'est comme si tu joues, tu joues au marchand.
Ouais. Et bah, si ça t'intéresse, comment tu pourrais faire pour faire en sorte de jouer au marchand avec ton argent à toi ? Qu'est-ce qui t'en empêche ? Il est où le gap ?
L'anxiété. C'est hyper anxiogène de voir... C'est vrai que je ne l'ai pas précisé du coup, mais je pense que c'est important de le dire. C'est que j'ai un trouble bipolaire de type 2. Donc, je ne fais pas des psychoses, des trucs où je perds pied avec la réalité. Mais je peux passer de... Maintenant, ça va mieux, j'ai un traitement, je suis stabilisée, mais je le sais depuis fin 2022, tu vois, ça fait pas longtemps. Et en fait, je peux passer... J'ai des changements d'humeur.
T'as des phases, ouais, t'as up, des phases hautes
et down. Ouais, okay. Et ce qui est marrant, c'est que ma phase down, c'est entre mai et juillet. Mai, la naissance de ma grande sœur, et juillet, mon anniversaire, tu vois. Et après, ça passe. Et le moment où ma mère était vraiment dans le dur. Mais là, je commence... Bon, je sais, ça fait des années. Et j'ai aussi un trouble de la cyclothymie, c'est de l'humeur, mais plutôt la journée, dans la journée ou dans la semaine. Ce qui fait que je peux passer d'un état de je suis la pire des mères, je suis même pas bonne à faire une liste de courses, à en fait, je suis à une poignée de main d'Obama, et si je veux le rencontrer, je le fais. Mais littéralement. Du coup, j'ai.
D'un moment sur l'autre, quoi, d'une heure sur l'autre, ou
ça peut.
Au sein de la journée.
Ouais. Ça peut. Il suffit que j'ai un espèce de moment d'hyper joie où j'absorbe vraiment l'énergie, et là, mais je peux devenir une meuf de ouf, où je suis convaincue que je suis la meilleure du monde, et après, je peux passer à, mais t'es une énorme merde. C'est insup. Et du coup, l'argent, en fait, une des manifestations possibles de la bipolarité, c'est que tu peux avoir des troubles d'addiction. L'argent, le jeu, le sexe, les principaux, la drogue. Moi, c'est l'argent. En fait, j'ai une grande impulsivité potentielle. J'aime prendre des décisions rapidement. Tu vois, j'ai entendu, je me rappelle Christian Junot, là, hier matin, c'était... Il y en a qui peuvent passer des heures à trouver le bon produit, économiser le truc. Moi, je suis là, j'ai trouvé le bon produit, je l'achète. Enfin, je m'en bats les couilles des frais, des machins, de la meilleure version. Enfin, j'ai pas que ça à foutre, quoi. Et voilà, je sais plus où j'allais.
Tu parlais de ta bipolarité.
Ouais, bipolarité, du coup. Oui, du coup, ça impacte aussi ma relation à l'argent, l'anxiété. J'ai un trouble anxieux, du coup, il y a ça. C'est-à-dire que quand je suis en phase anxieuse, je peux tourner en rond, c'est pas la peine de me demander quoi que ce soit. J'arrive plus à me concentrer, je peux pas faire ce qui me génère de l'anxiété. Je peux pas m'en occuper. Du coup, me confronter à l'argent, je peux l'utiliser finalement pour mon bien-être. C'est aussi ça. La raison pour laquelle je dépense depuis que j'ai de l'argent, là récemment, tout dans le corps. Je dis le hammam, le truc, les manucures, tout ça. C'est aussi pour me faire du bien, pour me soigner. J'ai besoin de ça. Mais pareil, le coiffeur, les machins. Mais voilà, c'est très impulsif. Et je sais qu'une partie de ça est liée à la bipolarité. Mais c'est un symptôme, tu vois.
Oui, tu...
C'est pas... Il y a une origine qui n'est pas à la bipolarité. La bipolarité, c'est juste un trouble de l'humeur. C'est juste une...
Disons que tu viens mettre sur l'argent, à un moment donné, des... En tout cas, ça vient accentuer peut-être les émotions que tu viens mettre sur l'argent.
Ouais. C'est ça. Ce que j'aime bien que quand tu parles de bipolarité, c'est que tu baisses ou tu augmentes à fond le potard. Tu vois, t'éteins complètement ou tu mets beaucoup trop à fond et tu te défonces les oreilles. Bah, c'est pareil. Et on parle du trouble du spectre bipolaire. Voilà, c'est pour ça. C'est comme le trouble du spectre autistique.
Il y
a plein de manières de. Voilà.
Ok.
Je trouvais ça important de le dire.
Oui, bien sûr, parce que ça fait sans doute partie aussi des. J'imagine quand t'es dans des phases hautes, t'as envie de tout acheter, quoi. Est-ce que, ou alors c'est différent, c'est-à-dire que quand tu vas pas bien, tu vas plutôt aller compenser
Les deux, en fait.
Ouais.
Quand je vais pas bien, je vais essayer de me réconforter dans des lieux où je me sens bien. Mais c'est vraiment des lieux, c'est des moments. Enfin, et quand je vais bien, j'ai plein de projets, plein d'idées. Enfin, franchement, ça ne s'arrête pas. C'est impossible pour moi de m'emmerder. Tu vois, j'ai un milliard d'idées à la minute. Du coup, j'aurais toujours des trucs potentiellement à dépenser, tu vois. Pour des projets, pour me former, pour construire des trucs. J'adore construire des trucs.
Ok. Construire des trucs.
Améliorer le poulailler, parce que j'habite dans une coloc avec maison, poulailler. Je sais pas, tu vois, mon anniversaire. Non, Noël, je me suis fait offrir une perceuse. Parce que j'adore bricoler, ce truc de ouf. Je me suis acheté les forêts à côté. Je pourrais très bien me racheter des planches. Je pourrais m'acheter une ponceuse. Enfin bref, après, là, j'ai une nouvelle coloc qui a un milliard de matos de ouf pour bricoler. Du coup, c'est trop, trop bien. Mais tu vois, c'est plein de choses. Dès que j'ai un projet, je fais « Ok, je veux ça, je veux faire ça. Du coup, j'ai besoin de ça. Réfléchis pas. »
Ah oui, ça vient avec à chaque fois des trucs à acheter.
La plupart du temps. Et là, pareil, là, j'ai dépensé ce que j'ai vu. J'ai fait le bilan, 300 balles pour mon taf, là. Pour acheter un clavier compatible Mac, parce qu'évidemment... un Mac et du coup bah, je suis baisée pour avoir un clavier normal pas trop cher. Deux souris ergonomiques parce que j'ai une tendinite quand je travaille voilà, avec un écran de confidentialité pour, parce que j'ai réussi à négocier un bureau là où, sur le campus là où je taffe à Nantes. Et plein de petits trucs comme ça. Mais je le paye parce que j'ai pas de contrat et que je suis freelance et que je me fais niquer la gueule quoi. Bah, ils vont pas payer de matos pour moi. Là, j'ai réussi à soudoyer le gars de la DSI, la direction informatique à Nantes, pour qu'il me prête un tapis de souris ergonomique, un écran. Enfin, tu vois, je bidouille. Mais je peux pas tout bidouiller. Et puis, à un moment, si je veux être confortable pour travailler, bah, je suis obligée d'acheter des trucs. Et j'achète des trucs de qualité. J'ai plus envie de me payer de la merde, en fait. Je bouffe à la... Attends, j'enchaîne sur plein d'autres trucs, mais tu vois, par exemple, je mange à la Biocop. J'ai deux de mes ex qui me disaient « Non, mais enfin, tu te rends pas compte, tu te permets d'acheter de la bouffe. Hein. On n'a pas forcément un milliard de thunes, on peut aller à Super U, Leclerc. Mais ouais, mais quand t'as bouffé chez Netto et chez Leader Price quand t'étais petite, où tu vois les gens, tu vois le milieu, quand tu vas acheter tes fringues chez Sympa, qui est une espèce de boutique qui fait des marques dégriffées, mais de vêtements qui sont pas forcément ouf, mais qui font le taf, hein, mais voilà. Je peux te dire qu'après, t'as plus hyper envie... Enfin, moi, j'ai plus hyper envie de continuer d'y aller, quoi. J'ai pas envie d'aller chez Aldi aujourd'hui. J'ai 33 ans, j'ai pas envie de me faire chier à faire des économies parce que le paquet de pâtes, il est 3 fois moins cher, tant pis. Voilà.
Ok. Non, mais... T'as raison. Qu'est-ce qui... Comment tu peux faire pour rêver, alors?
Bah déjà, quand tu... Enfin, quand je...
Parce que j'ai l'impression que t'as fait un gros taf sur le sujet.
Bah en fait, ça m'a libéré de la place. En fait, le fait de ne pas avoir d'argent, de ne pas savoir comment bouffer, ça prend une place énorme. Il n'y a pas de place pour autre chose. C'est ta priorité. Tu vois, quand je me suis séparée de mon ex après 4 ans, tu peux dire c'est un énorme taf, machin, et que ça va te prendre la tête. Non, il fallait que je cherche du taf, changement de coloc... fallait s'organiser, fallait que je gère l'argent, donc j'avais autre chose à foutre que de gérer la fin d'une relation compliquée. Donc j'étais l'argent, la bouffe, point barre, le taf, on pense pas à autre chose. Et en fait, une fois que t'as l'argent, tu peux penser à autre chose que tes besoins de base, payer ton loyer, bouffer, etc. Et j'ai vraiment cette phrase où je me suis dit, il faudrait que je la dise dans le podcast, c'est être pauvre, ça coûte cher. Ça coûte cher parce que ça coûte du temps, quand tu prends du temps pour aller... optimiser au centime près la bouffe pour aller chercher des aides, pour aller remplir tes dossiers de la CAF, et si t'as accès, pas accès au numérique, laisse tomber. Enfin, voilà.
En fait, ce dont j'ai l'impression aussi, c'est qu'il y a un truc en toi aussi qui va faire en sorte d'aller vers la pauvreté, ou qui faisait en sorte peut-être d'y aller. Parce que tu disais que c'était confortable pour toi.
Oui.
Donc il y a un truc un peu ambivalent, parce que si, bon, t'es intelligente, t'as fait une école de commerce. En gros, t'as vraiment tous les outils aujourd'hui pour pouvoir te dire « Ok, y a moyen que j'aille chercher plus d'argent. » quoi. Et comme tu le disais, il y a un truc qui t'empêchait de rêver. Ou tu t'empêchais de rêver.
Déjà, je m'empêche moins de gagner de l'argent, mais déjà, il y a deux trucs. Déjà, dans ma famille, ils sont tous dans le care. Et ça paye pas. De ouf. Ça bute le corps. Ça paye pas de ouf. Je suis la première à avoir fait un bac plus 5.
Okay.
Les autres, c'était tout un bac plus 2, 3. Mes petits frères, j'ai deux petits frères, je ne l'ai pas dit, que j'aime d'amour, qui ont 20 et 23. Qui ont... Il y en a un qui est en licence 1, parce qu'il a... Bon, il a retapé, non, licence 2. Et l'autre, il est en train de préparer potentiellement une thèse, il a donc bac plus 5. Et ouais, on est les... déjà, je suis dans les premières, et du coup, j'ai ce truc un peu de s'éloigner de sa famille. Déjà que je n'ai pas le même nom de famille, que ma mère est celle qui a... qui s'est éloignée le plus de la famille qu'elle est en Bretagne, alors que la famille est en Vendée, mais toute la famille est restée dans le même coin, littéralement. Y a ça. Ma mère...
Donc là, c'est de la distance géographique, mais toi, tu dis que tu es en train de mettre de la distance sociale aussi.
Oui, c'est ça. Et en fait, je pensais à Annie Ernaux. Je ne sais plus si c'est elle qui dit ça. Cette expression qui est très forte, c'est être traître à sa race. Et j'ai une énorme ambivalence par rapport à ça. S'il y a juste un autre truc, c'est que ma mère, elle est à 80% maintenant dans son taf. Bon, elle vient d'avoir 60 ans, donc... Voilà, mais elle a moins travaillé pour s'occuper de mes petits frères aussi. Je pense qu'elle n'a pas voulu vivre la même chose qu'avec moi. Elle voulait... Et ça, je le comprends totalement. Pas de jalousie ou quoi, enfin, il n'y a pas de tabou. Mais elle doit gagner, je ne sais pas, 2000-2200 net. Enfin, un boulot de ouf. Et moi, de me dire que passer mes journées à faire des tableaux Excel de merde et des PowerPoint, je ne veux pas que ça, hein. Clairement, j'adore mon taf, parce que...
Non, ok, non. Ça t'a mal commencé.
Non, non, mais en fait...
J'adore mon taf, mais je fais des tableaux Excel de merde.
Et non, mais j'organise des expériences pédagogiques avec des étudiants, j'enseigne l'esprit critique, je fais de la coordination, enfin, je fais plein de trucs.
Oui, il y a du sens dans ton taf.
Il y a vachement de sens et je kiffe. Je kiffe vraiment ce que je fais.
Ça te rapporte plus d'argent que ta mère.
Tout à fait. Et il y a, quand tu dis que tu peux te branler la tête, les neurones, une journée entière sur un tableur Excel, que pendant ce temps-là, ta mère, et faire en sorte que des gens puissent donner la vie... en toute sécurité, me dire que je gagne plus d'argent qu'elle pour faire des trucs où, en gros, j'arrête de bosser, il va rien se passer. C'est dur. Là, ça va mieux, mais ça commence, mais c'est...
Si t'as écouté le podcast, j'imagine qu'on a parlé un peu de déloyauté.
Mais oui, mais c'est de la déloyauté.
Voilà. Il faut... En tout cas, c'est de la loyauté à ta mère.
Ouais.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, de te rendre compte que tu peux... En fait, ta mère a choisi cette voie-là parce que c'est ta mère, tu vois. Et que... Effectivement, tu as le droit, toi, de gagner plus d'argent et de gagner beaucoup plus d'argent si tu le souhaites. Et ça ne te rendra pas moins loyal ou moins... Ou, comment dire, ou traître à ta mère, quoi.
Traître à ma race, traître à mon sang.
C'est incroyable.
Mais il y a un autre truc très, très ambivalent, c'est que j'ai fait une école de commerce. Bon, après, j'étais bonne à l'école... j'ai eu mon bac, mention très bien, économique et sociale. Du coup, la suite logique, prépa, 2 ans de prépa, concours, école de commerce. J'ai fait une école de commerce parce que je voulais pas galérer dans ma vie comme ma mère. Résultat, comme ma mère, j'ai une dette, comme ma mère, je galère.
On appelle ça de la loyauté, ouais.
Ouais, de ouf. Et,
tu t'en rends compte de ça?
Mais oui, je le sais. Et j'ai voulu rejoindre un monde, faire partie d'un monde où il gagne énormément d'argent. Énormément. Pour pas me prendre la tête, pour que ça soit plus un sujet. Et j'ai pris l'ascenseur social aussi. J'ai accumulé un capital social,
culturel,
c'est côté transfuge de classe, j'imagine, un capital éducatif. Donc déjà, je me dis, je peux pas me considérer comme étant quelqu'un de pauvre. Je peux pas demander de l'aide d'une assistante sociale comme je l'ai fait pour construire mon dossier de surendettement, comme je l'ai fait l'année dernière pour demander de la bouffe. J'ai pas le droit.
T'as pas le droit.
J'ai pas le droit. Je suis pas
censée. Tu t'autorises pas le droit.
Je suis pas censée avoir droit à ça. Et je dois prendre l'ascenseur social. Mais après, ça, pareil, je l'ai un peu déconstruit.
Tu sais qu'il y a. J'ai, alors, je sais pas quand cet épisode sortira, mais j'ai interviewé quelqu'un de l'association Crésus.
Ah, trop bien.
Qui est donc une association qui travaille avec les gens surendettés. Qui explique que clairement, il y a plein de gens qui viennent aussi qui ont des revenus très aisés
sont
dans la merde financièrement parce qu'ils sont allés chercher un rythme de vie, ils sont un peu rentrés dans une roue insupportable où ils finissent par avoir des charges énormes et malgré leur salaire élevé, ils finissent quand même par être surendettés, quoi.
Mais moi, en termes de surendettement, je suis une petite joueuse, tu vois, en tout. Petite joueuse en termes de surendettement, puisque j'ai 17 000 de dettes à la Banque de France, 6 000 à ma mère, encore 1 200 à mon ex. L'URSSAF, est-ce qu'on peut dire que je leur dois de l'argent? Oui et non, parce qu'il y a une partie que j'ai pas déclarée, parce que c'était ça où je mangeais pas l'année dernière. Et je sais que ça peut me mettre en danger. Et après, je suis pas le genre de. Enfin, tu vois, je suis pas spécialement intéressante à contrôler. Je suis pas un, un gros client, je fais pas des gros chiffres d'affaires. Je fais 17 000 de chiffre d'affaires l'année dernière, quoi. C'est pas... Et 35 000 l'année d'avant, enfin, tu vois. Mais je crois que je leur dois 2004.
Ok.
Mais je leur dois symboliquement, c'est-à-dire qu'ils sont pas au courant. Mais tu vois, chez... du coup, en termes de dette, je monte à quoi? À 24, 25 000? Et quand je pense aux gens qui sont en surendettement, il y en a c'est mille fois pire. Mmh. J'ai pas de crédit à la consommation, j'ai pas... Quoique, il faut savoir que le découvert, c'est un crédit à la conso. Ça coûte extrêmement cher. Mais voilà, donc ça pourrait être pire. En fait, à chaque fois, je me dis ma situation pourrait être pire. Je reste une personne privilégiée, je suis une femme blanche, cis, hétéro, avec un capital culturel, social, j'ai du réseau, je connais des gens avec un... Je connais des gens.
Mais ça n'a strictement rien à voir avec ta relation à l'argent.
C'est un voile, une bonne excuse.
Exactement.
Ouais. Mais ouais, c'est pour ça que enfin, ma relation à l'argent, je trouve que j'aime bien dire qu'elle est bipolaire, quoi. C'est fucked up, quoi. C'est d'un côté, j'ai une conscience très acérée de tout ce qui se passe, de tout ce qui se joue. Et de l'autre, je me noie complètement dedans, quoi. C'est...
Oui, mais pour moi, c'est parce qu'à un moment donné, tu viens y coller des émotions qui n'ont pas lieu d'être.
Ouais.
Si tu fais en sorte de, je crois, de regarder ces émotions quand elles viennent, de les regarder en face et de te dire, ok, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que y a un, comment dire, est-ce que c'est tangible ou pas? Est-ce que cette anxiété, elle est tangible là aujourd'hui, tu vois? Ou alors c'est juste, je suis en train de me faire un petit film dans la tête toute seule, tu vois, ce qui est souvent le cas.
C'est une salle de cinéma dans ma tête.
Ouais, normal, franchement. Peut-être tu peux réussir à faire baisser un peu la pression de cette émotion-là, quoi.
Ça commence. Et... Une fois que tu n'as plus cette préoccupation de comment je vais bouffer, tu te rends compte, enfin, ça m'a fait un choc. Quand j'ai reçu ma première facture, c'était 4320, je crois.
Mais tu sais, ça n'a rien à voir avec le fait que comment tu vas bouffer ou pas. Parce qu'en fait, je sais que tu as toutes les ressources pour arrêter d'avoir ce truc de comment je vais bouffer.
Ouais.
Tu le sais.
Mais déjà, je l'ai plus, ça.
Tu t'es foutu toi-même dans cette merde. Tu le racontes. C'est qu'en fait, c'est vachement plus simple pour toi d'être à zéro.
C'est tellement plus simple.
Ouais, mais pas. Puisque ça te fout dans un état dans lequel tu es en train de décrire, là.
Je te dis, c'est hyper ambivalent.
Ouais,
quoi, c'est...
Je comprends. Mais c'est vachement plus simple de ne pas avoir d'argent que d'avoir de l'argent. Cet argent, je ne sais pas ce que tu mets derrière, mais il est lourd. Il pèse.
Il prend de la place. Je prends de la place. Je pense que c'est aussi pour ça que je dépense de l'argent quand je suis dehors. Je prends de la place. Je m'assois, je prends de la place. Je prends une table.
Ah ouais.
Il y a un peu de ça.
Mais ouais. Tu l'as, ta place.
Compliqué.
Je te le dis, tu l'as. Non, tu dis non, mais je te le dis, parce que t'es là, regarde.
Ouais, je suis avachée sur le canapé.
Non, mais t'existes. Tu la mérites, ta place.
Je trouve ça marrant, cette notion de mérite, c'est pas... Je sais pas, je suis pas à l'aise, mais ouais.
Bah oui, je sais bien que t'es pas à l'aise. Tu viens d'une relation extra-conjugale, donc forcément t'as pas la sensation de mériter quoi que ce soit.
Bah ouais. Même l'héritage, je m'en branle. Mon père, je sais pas ce qu'il y aura, il y aura peut-être rien. En fait, je me battrai jamais pour des choses comme ça.
Dis pas, là, aujourd'hui, je m'en branle. Tu vois, tu sais pas ce qui se passera.
Oui, je sais.
Et puis, t'as la relation que t'as aujourd'hui à l'argent. Et en fait, quand ton père mourra, ça aura sans doute évolué. Mais en tout cas, t'auras bossé dessus.
Ouais. J'ai envie de me débarrasser de cette histoire avec mon père. Je veux dire un truc horrible, mais j'ai envie qu'il meure. Pas parce que je lui souhaite du mal, mais parce que je veux que cette histoire-là, elle soit finie. Je l'aime, hein, au fond, alors que ce mec n'a pas fait partie de ma vie, que le deal entre lui et ma mère, c'est ok, tu gardes cet enfant, mais je donne pas d'argent. Ma mère, elle a dit ok.
Mais ça n'a rien à voir avec toi.
Mais mais tu vois, encore une fois, j'ai une forme de loyauté, tu vois. Là, le fait de partager ça dans le podcast, ma mère m'a dit, je veux pas que tu racontes cette histoire. Enfin, elle veut pas que mes petits frères soient au courant, et je comprends, en fait. Mais donc, je suis déjà dans une forme de déloyauté.
Mais pourquoi? Oui, je comprends.
Parce que c'est son histoire.
Oui, mais non, c'est pas son histoire, c'est ton histoire. La preuve, C'est toi qui es en train de pleurer dans ce canapé.
C'est l'histoire de la vie, le cycle éternel.
Voilà, tu viens de faire une blague, merci.
Allez. Pardon. Ok. Ouais.
C'est pas l'histoire de ta mère, c'est ton histoire. Et en fait, en plus, j'ai l'impression que tu t'en as approprié beaucoup.
Ouais.
Tu t'es approprié beaucoup de trucs qui ne t'appartiennent pas, si je puis me permettre.
Je fais ma Maïua, tu sais, avec son film Maïua, ouais, et son film Les Rivières.
Les Rivières.
C'est
Mais bien sûr, on récupère tous les doses de nos parents, quoi, d'une manière, ouais, ou d'une autre. Mm. Parce qu'en fait, on a envie que nos parents nous aiment. Donc forcément, on va prendre des trucs sur le dos qui ne nous appartiennent pas, quoi. Et souvent, en plus, qu'ils nous donnent même pas consciemment, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas comme s'ils te disaient, tiens, ta mère est jamais venue te dire, tiens, en fait, voilà, voici un sac à dos avec tous mes doses, boum, quoi, tu vois. C'est juste, toi, tu t'es dit, ok, je vais, pour alléger maman, je vais faire en sorte de faire ça, quoi. Normal.
Non, non, mais je voyais bien qu'elle souffrait, que c'était dur quand elle était petite. Enfin, j'ai jamais voulu, en fait, si je m'en suis, enfin, ça a duré longtemps, mais je voulais pas être un poids, tu vois.
Bah
et
oui.
Tu sais, quand mes petits frères sont arrivés, il y a ce truc de je veux pas coûter de l'argent. Ce qui est arrivé, tu vois, j'ai coûté de l'argent, mais déjà. Je veux dire, toi, t'as deux filles, évidemment.
Tu existes. Bien sûr que tu coûtes de l'argent, tu existes.
Ouais. Mais tu vois, il y a ça, d'en prendre sa place aussi, c'est bah, il y a de l'argent et je coûterai cet argent-là. Ma mère a travaillé comme une dingue pour que je puisse avoir des vacances, que je puisse avoir une qualité de vie de ouf. Parce que quand tu passes tous tes étés sur l'île de Wight, qui est quand même une île bretonne, paradisiaque, l'eau translucide, etc., avec une immense liberté, pas de voiture, les gamins, ils sont en liberté sur l'île, c'est un paradis, tu vois. Et c'est défoncé pour ça. Et voilà, et après, bah, il était temps de passer le relais à mes petits frères. Donc, ça me paraissait normal. Tu vois, c'est faire. Tu regardes en mode... T'en tiens une couche, quand même.
Non.
Blague.
Ouais, t'en tiens pas une couche du tout. C'est juste que je voulais te dire que tu mérites. Et je crois que c'est important que tu te dises que tu mérites.
Je vais faire ça, cet exercice
dans la gueule. Que tu mérites de rêver.
J'ai commencé.
J'ai compris.
Je rêve de nager en apnée avec des cachalots en mer Méditerranée.
Et bah voilà.
Il faut que j'apprenne à faire de la voile parce que je vais pas les déranger et ils viendront me voir que s'ils ont envie. Non mais c'est vrai, arrête. Écoute, hein, j'ai une conscience écolo très forte.
Mais t'as raison de mettre plein de bâtons dans les roues à ce rêve qui est finalement, je crois, relativement accessible, tu vois.
Mais... C'est pas des bâtons, c'est...
Non mais c'est tout de suite, tu viens rajouter une couche, tu vois. D'abord, il faut que j'apprenne à faire de la voile pour pouvoir aller faire ce truc. Alors qu'il y a vraiment des façons plus simples d'accéder à ce rêve.
Tu vas dans la mer et tu nages.
Voilà.
Non mais de l'apnée aussi, parce que je veux... je sais pas, il y a ce truc vraiment intense que j'ai envie de vivre. C'est pareil, j'ai envie de construire ma baraque en habitat léger le jour où je veux changer de mode de vie. Parce que là, aujourd'hui, j'habite dans le coloc, dans une maison... près de Nantes, qui est trop trop cool. Je vis avec deux femmes du même âge que moi. Enfin, c'est vraiment le paradis pour moi. Mais construire une maison qui s'appelle une Kertere, Kertere, c'est comme une maison de hobbit en chaud chanvre.
Ah, j'ai vu ça sur Insta.
C'est un truc de ouf. Ou une yourte. Enfin, je sais pas, j'ai envie de construire ça. Tu vois, cette espèce de petit rêve un peu de... Pareil, de prendre soin du terrain. Et en plus, il n'y a pas besoin d'acheter si tu fais un deal. Avec une mairie qui est un peu chaude pour l'habitat léger et tout ça, tu peux louer un terrain pour pas cher. Tu mets ton habitat léger et tu l'entretiens. Ça, je me vois trop faire ça. Je serais trop chaude, tu vois. Ça, c'est un rêve un peu cool.
Ok.
Voilà. Et ça coûte pas cher.
Merci, Caro.
De rien.
C'était sympa.
Tu m'as pas demandé ce que c'était ma vie riche.
Ah.
Je te reprends.
C'est vrai que je t'ai pas demandé. Mais c'était un peu ce que tu étais en train de faire, non?
Ouais. Bah, ma vie riche, si je voulais dire, c'est... Il y a un truc complètement gratuit. Il y en a plusieurs. Les mots, parce que je suis passionnée de... J'écris un bouquin, j'adore les mots. Je suis obsédée par les mots les plus drôles, genre truculents. Je sais pas... ils me viennent pas, mais genre j'adore ce mot. Et en fait, même quand t'as plus rien, il te reste toujours ça. Les cailloux aussi, il y a plein de cailloux partout. C'est comme les enfants de 5 ans, j'adore trouver des beaux cailloux et des beaux coquillages. Extraordinaire. Et Et voilà, je ne sais plus, il y avait autre chose, mais... Ah oui, les flyers. J'adore faire des collages. Les flyers, il y en a un milliard, des trucs beaux. Et en fait, tu vois, il y a...
T'as vraiment été chercher la vie riche la plus incroyablement riche que j'ai jamais entendue.
Non, mais c'est dingue, c'est pareil. Tu vois, là, je me balade dans Paris, t'as des tags partout, t'as des petites choses, des assemblages. C'est complètement fou, en fait. Oui. Ta vie riche, elle est là.
Oui, elle
tu
est
vois,
par...
je peux cueillir une fleur.
Oui, elle est partout sous tes yeux, si tu veux.
Ouais.
Oui, je suis très d'accord.
Et du coup, ma vie riche, elle est là. Et dans la capacité à me payer des lattés. À 4,50€.
Bravo.
Merci.
Pour cette capacité à te payer des lattés à 4,50€. Caro, je te souhaite le meilleur. Franchement.
Merci.
Et n'oublie pas, tu mérites.
Mm. je vais finir ce podcast en grognant.
Merci bien.
Salut, ici le Fab du montage. Alors, quelques semaines après cet enregistrement, Caro nous a envoyé ce vocal que je vous poste. Ça fera un petit peu une forme d'épilogue quoi, pour le podcast.
Salut Fab, ici Caro. Un message pour compléter, enfin pour donner suite à l'enregistrement qu'on a fait ensemble il y a quelques semaines. Ce qui est drôle, c'est que là, j'ai une voix de Jeanne Moreau qui a fumé beaucoup trop de paquets de cigarettes ou de Patricia Cass, enfin bref. Parce que quand t'as envoyé la version potentiellement finale à diffuser sur les internets du podcast, comme tu l'as fait écouter avant, je l'ai écouté deux fois et je suis tombée direct malade. Mais d'un coup, ça m'est tombé sur le coin de la tronche. Et en fait, je me suis rendu compte entre ce que j'avais pu dire pendant le podcast et l'acte même de... Enfin, le fait de parler dans ce podcast, j'arrive même plus à parler. Je me suis rendu compte que je faisais mon premier gros exercice de déloyauté. J'ai réalisé vraiment à quel point je suis une madame loyale en écoutant le podcast, parce que je dis certaines choses quand je parle de ma mère. Une fois où, je sais pas, je dis quand elle était petite au lieu de dire quand j'étais petite. Enfin, un peu comme si c'était pas vraiment moi, c'était pas vraiment ma vie. Et il y a un autre truc, c'est... j'ai complètement déformé les mots de Annie Arnaud. J'espère que les gens qui écouteront le podcast n'ont pas sauté au plafond. Mais elle ne dit pas être traître à sa race, elle parle de venger sa race. Et je pense que je suis tellement obsédée par le fait de ne pas vouloir trahir mes proches et là d'où je viens que j'arrive pas à retenir autre chose que cette phrase. Voilà, donc je trouvais ça assez rigolo et en fait vraiment je me rends compte que participer à ce podcast et raconter des choses que je pense que ma mère voudrait pas que mes proches sachent, que mes frères sachent, bah c'est aussi pour moi un moyen de me libérer, donc merci beaucoup pour ça. Et j'avais pensé à un milliard de trucs que je t'ai pas raconté et que j'avais envie de raconter, mais je pense que là c'est déjà pas mal, donc merci encore et puis à bientôt, ciao.
Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.